bref, il est pile 10h temps universel, midi ici à Paris, 13h30 à Téhéran. Bonjour.
Charlotte Hydrac.
À la une, duel en vue en Iran, il y aura un second tour de la présidentielle entre le candidat réformateur Massoud Pezeshkian, arrivé en tête, et l'ultra-conservateur Saïd Jalili. 40% seulement des électeurs se sont déplacés hier. I can do this job, je peux faire le boulot. Joe Biden répond à ceux qui l'appellent à jeter l'éponge après son débat raté face à son prédécesseur Donald Trump. Le président démocrate tente de faire taire les critiques sur son état de santé, sa capacité à mener campagne pour la présidentielle de novembre. Les élections législatives anticipées en France, Saint-Pierre et Miquelon ouvrent le bal dès aujourd'hui. Décalage horaire oblige, on vote aussi ce samedi en Nouvelle-Calédonie, un scrutin sous très haute surveillance après les récentes émeutes. Et puis c'est le grand départ pour les coureurs du Tour de France. Les cyclistes s'apprêtent à s'élancer depuis Florence en Italie. 206 km, 7 ascensions pour cette première étape. Ça démarre très fort. Oui, un nouveau rendez-vous électoral dans les agendas en Iran. Il y aura donc un second tour de la présidentielle et ce sera le 5 juillet. Il opposera un réformateur et un ultra-conservateur de profils très différents. D'un côté, Massoud Pezeshkian arrivé en tête avec 42% des voix. Devant Saïd Jalili, inflexible vis-à-vis des Occidentaux qui recueille lui 38% des suffrages. La participation a été faible pour ce premier tour, je vous le disais, 40%. Rendez-vous désormais donc le 5 juillet. Le réformateur Massoud Pezeshkian n'est pas favori. On ne l'avait pas forcément vu venir, hein, Antoine Galen. Ce n'est pas une figure historique du camp modéré.
Oui, il y a un grain de sable dans la campagne pour certains, un faux espoir pour d'autres. Massoud Pezeshkian, connu pour son franc-parler, n'a pas hésité à critiquer le pouvoir en place lors du mouvement de protestation provoqué par la mort de Mahsa Amini en septembre 2022. Sans remettre en question le système, le candidat réformateur a dénoncé les méthodes de répression des manifestations contre le port du voile. Pendant cette campagne électorale, il s'est notamment démarqué de ses adversaires en diffusant dans son QG l'hymne du mouvement de protestation « Femme, vie, liberté ». Ce chirurgien de profession, âgé de 69 ans, est député de Tabriz, grande ville au nord-ouest de l'Iran. Son expérience gouvernementale se résume à un seul poste, celui de ministre de la Santé entre 2001 et 2005 dans le gouvernement du réformateur Mohammad Ratami. Pendant la campagne, le candidat prônait un réchauffement avec les pays occidentaux, États-Unis en tête, pour lever les sanctions qui pèsent sur l'économie iranienne. Mais en Iran, la politique étrangère est une prérogative du guide suprême Ali Khamenei. La marge de manœuvre de Massoud Pezeshkian, s'il est élu, serait donc étroite.
Antoine Galen, l'Iran qui met en garde par ailleurs Israël contre une attaque au Liban. C'est la mission iranienne auprès de l'ONU qui avertit. Tous les membres de l'axe de la résistance pourraient se mobiliser si l'État hébreu lançait une offensive à grande échelle contre le Hezbollah libanais. Toutes les options sont sur la table, je cite. Alors que les échanges de tirs se multiplient à la frontière entre Israël et le Liban depuis le début de la guerre à Gaza. Les combats se poursuivent là-bas dans le territoire palestinien ce samedi. Les conditions de vie des habitants sont désastreuses selon l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. C'est un édito on ne peut plus clair aux États-Unis. Le New York Times, prestigieux journal, appelle le président Joe Biden à abandonner la course à la Maison-Blanche, à retirer sa candidature. Ce serait rendre le plus grand service public, écrit le journal après le mauvais débat télévisé jeudi soir face à Donald Trump. Le président, 81 ans, a eu du mal à finir ses phrases. Il s'est montré confus, décousu, mais Joe Biden, lui, ne baisse pas les bras. En meeting hier soir, il a tenté de faire taire les critiques dans un discours enflammé. Loubna Anakis n'était plus le même homme.
Thank you, North Carolina.
Face à des partisans venus le voir en Caroline du Nord, Joe Biden semblait avoir repris du poil de la bête. Il a retrouvé sa voix et le fil de ses pensées.
Nous allons protéger et préserver notre démocratie.
On était bien loin de l'image du candidat confus et hagard qu'il a présenté face à Donald Trump quelques heures auparavant. Le président démocrate a d'ailleurs répondu aux nombreuses critiques qui ont suivi sa faible performance.
Je sais que je ne suis plus un jeune homme. Je ne marche plus aussi facilement, je ne parle plus aussi élégamment, je ne débat plus aussi bien, mais je sais au moins dire la vérité. Je sais discerner le bien du mal et je sais comment faire le job.
Une attaque directe adressée à son adversaire républicain qui a multiplié les mensonges lors de ce premier débat de campagne. Tout en reconnaissant son mauvais passage jeudi soir, Joe Biden a assuré « Je vous promets que je ne serai pas candidat si je n'étais pas persuadé de pouvoir faire ce travail ». Loubna Anaki, New York, RFI.
C'est une prise stratégique en République démocratique du Congo. La rébellion du M23 a pris le contrôle de la ville de Kanyabayonga dans l'est du pays. C'est une ville à une centaine de kilomètres de Goma, considérée comme un dernier verrou pour atteindre le nord de la province du Nord Kivu. Stop ou encore, en Mauritanie, le vote est en cours pour la présidentielle avec 7 candidats en lice et parmi eux, le président sortant, Mohamed Ould Cher El Razouani. Il se pose en garant de la stabilité dans la région agitée du Sahel. La Mauritanie n'a plus connu d'attaque sur son sol depuis 2011. Les bureaux de vote viennent d'ouvrir à Saint-Pierre et Miquelon pour le premier tour des législatives françaises anticipées. Le petit archipel d'Amérique du Nord donne le coup d'envoi du scrutin. On vote dès ce samedi aussi dans les Antilles, en Guyane, en Polynésie française et décalage horaire oblige en Nouvelle-Calédonie. Un scrutin organisé dans un contexte très particulier dans l'archipel et sous très haute surveillance après les récentes émeutes contre la réforme électorale. Pierre-Olivier.
Partout sur l'archipel du Pacifique, les rassemblements sont interdits jusqu'à 20h dimanche. Le couvre-feu entre 20h et 6h est quant à lui prolongé jusqu'au 8 juillet, le lendemain du second tour des élections législatives. Des mesures qui interviennent alors que la participation attendue pour le premier tour s'annonce importante en Nouvelle-Calédonie, en proie à des violences depuis 2 mois sur fond de réforme du corps électoral. Un regain de tension avait par ailleurs été observé après le transfèrement en métropole il y a 8 jours de 7 militants indépendantistes sur l'archipel. Alors que les écoles sont fermées depuis 7 semaines pour raisons de sécurité, certaines rouvriront pour servir de bureau de vote. Mais encore faudra-t-il que les électeurs puissent y parvenir car de nombreux barrages routiers bloquent toujours les principaux axes de circulation. En Nouvelle-Calédonie, la campagne pour les législatives a été quasi inexistante. Presque aucun panneau électoral n'a pu être installé. Au total, près de 4000 policiers et militaires sont déployés sur le territoire et tenteront d'assurer la bonne tenue du scrutin.
Et pour la métropole, rendez-vous ce dimanche, 3 semaines seulement après la dissolution surprise annoncée par le président Macron. 3 semaines politiques intenses de tractations, alliances et règlements de comptes. Et la grande question d'une éventuelle cohabitation avec le Rassemblement national. Ces législatives, c'est à suivre, bien sûr, sur RFI. Et c'est dans ce contexte électoral que s'élance le Tour de France ce samedi. On s'adaptera, a dit le patron de la Grande Boucle pour cette 111e édition avec un parcours inédit. Au départ de Florence, en Italie, c'est parti à l'instant sous un soleil de plomb. Ça commence très fort, hein. Aujourd'hui, les coureurs seront dans le dur d'entrée avec 206 km et 7 ascensions. Il pourrait déjà y avoir un bel écrémage, des écarts entre les favoris et pourquoi pas un premier épisode du duel annoncé entre Tadej Pogačar, l'ambitieux Slovène, et Jonas Vingegaard, double vainqueur sortant, mais sans réelle garantie, Thomas Saint-Léger.
On l'avait laissé, immobile, en chien de fusil, dans un ravin du Pays Basque, avec un pneumothorax, des côtes et une clavicule cassée. 3 mois plus tard, revoilà Jonas Vingegaard en tenue de cycliste, sourire carnassier, mais ambition nuancée.
Pour être honnête avec vous, je ne sais pas trop où j'en suis. Je n'y pense pas trop, je vais essayer de faire de mon mieux jour après jour. J'ai envie de me battre pour le maillot jaune. Je ne vais rien lâcher. Et si je suis là, c'est que je suis prêt pour ça.
Un discours un poil ambigu que le Danois répète à l'envi et en personne. Une manière de lancer la guerre des nerfs dans le camp d'en face. Pogačar, lui aussi, joue la carte brouillard. Il annonce avoir été touché par le Covid il y a quelques jours, puis envoie ses coéquipiers pour rassurer. Le Français Pavel Sivakov.
Tadej, sur toutes les courses où il se présente, il est favori. J'étais avec lui quand il a eu le Covid et ça n'a pas changé sa préparation tant que ça. Donc au final, on est toujours confiant.
Alors, qui bluffe, qui va se découvrir avant l'autre? Un outsider pourrait-il profiter d'un éventuel marquage entre les deux grands favoris? Première réponse aujourd'hui sur la route de Rimini. Thomas Saint-Léger, Florence RFI.
Et puis le road foot, les choses sérieuses qui commencent avec le début des 8e de finale. Suisse-Italie, 16h temps universel. Allemagne-Danemark, 19h TU. Ce sera à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Mais d'abord, tout de suite, on retrouve Bruno Faure pour Écho d'ici, Écho d'ailleurs. À tout à l'heure.